Qui suis-je? Qui vous êtes? C'est ma question qu'on se pose aujourd'hui. En trois mots, c'est pas toujours facile de décrire. J'avoue, j'ai fait cet exercice, puis c'est pas toujours évident. On sait pas de où qu'on va se repérer, hein? Voyons donc. Je lis anonymement. Ceux qui ont écrit des noms, je ne lirai pas votre nom. Inquiétez-vous pas. Bon, il y en a une qui a dit, je suis patiente, serviable, joviale. Oh, joviale, excuse-moi, c'est mon français. OK, fait qu'elle, c'était qui elle était dans son caractère. Et elle, oh, c'est une bonne réponse. J'aime Jésus, je veux le servir, soldat de Christ, soldat de Christ, fonctionnaire, maman de deux garçons. Wow! On va faire ça vite. On va en prendre quelques-uns, pas toutes, parce que sinon on va passer ta matinée à lire les noms. Allez. Maman de deux enfants, enseignante ou préscolaire. Encore des... Qu'est-ce qu'on fait? Enfant de Dieu. Oh, c'est une bonne réponse. Retraité, en route vers le ciel. Wow! C'est bon, ça! Une personne qui a de la joie de vivre, patiente, amicale, encore son caractère à l'intérieur. Et l'autre, on va en prendre deux pas plus, encore. Enfant de Dieu, aimant les sœurs en servant et apprenant des autres, étant une personne vivante, seul et bien entouré de l'amour de Dieu. Wow! C'est beau, hein? On va poursuivre, on va continuer avec les messages. Où je veux en venir? Souvent, quand on dit qui qu'on est, on attribue souvent qui qu'on est à ce qu'on fait. On met notre identité dans ce qu'on fait. Mais pourtant, ça devrait être notre identité qui détermine ce qu'on fait. Et non l'inverse, ce n'est pas ce qu'on fait qui fait notre identité, mais c'est notre identité qui détermine ce qu'on fait. Bon, on se remet dedans. Donc, quand on est maman, puis que nos enfants ils quittent la maison, ça crée un vide. On se sent soudainement désemparé, seul, parce qu'on a mis toute notre valeur dans nos enfants, par exemple, dans notre rôle de mère. Puis si, par exemple, on subit un divorce, ça aussi, ça crée une déchirure, un rejet, un abandon, puis la perte d'estime de soi, qui fait en sorte que, encore, c'est une perte. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont des pertes. Puis la vie est toujours changeante. Les gens changent, les circonstances changent, nous, on change aussi, puis on n'est pas à l'abri de rien. Alors, comment qu'on fait pour se tenir ferme dans un monde où tout peut chambouler du jour au lendemain, où on peut perdre notre santé, puis on vieillit aussi, fait qu'on ne rajeunit pas. Fait que tout le monde, fait que chaque saison a ses défis, puis il y a des ajustements à faire, puis il y a des pertes dans chaque saison de la vie. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que malgré toutes ces pertes, il y en a une qu'on peut avoir qui demeure. Et que ça, c'est notre identité en Jésus. Et je le dis, je le vis, parce que je vais donner un peu mon témoignage de comment j'ai grandi. J'ai été élevée dans un foyer où que ma famille était c'est un foyer chrétien. On a grandi chrétien, mais chacun avait quand même un bagage avec de blessures et ses luttes. Et ce qui fait en sorte que souvent, ce que les parents ont été blessés dans l'enfance, ils vont reproduire dans le foyer. Et ça va aussi aller sur notre façon de voir Dieu. Donc, si par exemple, comment expliquer? Si, par exemple, on a été élevé avec des parents plus sévères, alors quand on regarde à Dieu, on le voit aussi de cette façon. On le voit de manière, Fait que le sentiment revient aussitôt qu'on fait une gaffe. Surtout si, quand on faisait des gaffes, on se faisait chicaner comme il faut. Ben, le sentiment revient rapidement. Ben, là, Dieu, il va peut-être m'abandonner. Il va peut-être me rejeter. Peut-être qu'il ne m'aime pas trop. Il ne peut pas m'aimer comme ça. Là. Ça c'est impossible. Là. Moi, je suis tout de travers. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? J'aimerais ça que vous fermiez les yeux un 2 minutes. Prenez une pause un 2 minutes. Quand vous avez péché, imaginez-vous que vous avez fait une gaffe devant Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Comment qu'il réagit Dieu envers vous? Pour ma part, vous pouvez ouvrir les yeux. Quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours pensé que Dieu était trop sévère. Parce que la première chose qu'on nous enseigne, il faut que tu obéis. Dieu te regarde. Dieu te voit. Il est partout. Attention. Puis on prenait toujours le mot de Dieu comme attention au lieu de nous présenter un Dieu d'amour en premier. Mais pourtant, Dieu est d'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous châtie. Il nous châtie. C'est même pas le mot. Il dit ça dans la Bible, mais châtier, c'est toujours pour amener du mal au bien, non dans le but de nous écraser. Puis Jésus, il est comme ça. Il est amour. Il vous aime beaucoup. Mais pourquoi on a tellement de la misère à recevoir son amour et sa grâce? C'est parce qu'on a encore nos blessures de notre passé, nos expériences, nos fausses images de qui est Dieu. On va commencer à lire aussi ce qui s'est produit aussi avec les Juifs dans le temps. Quand on lit le passage, il dit, ils lui répondirent, nous, dans Jean 8, 33, à 36. Vous pouvez tourner les pages à Jean 8, 33 à 36. C'est bon. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Juste une anecdote, ils ont nié déjà le fait qu'ils ont été déjà esclaves des Égyptiens, des Babyloniens, des Assyriens. Et maintenant, en ce moment même-là, à cette époque-là, ils étaient esclaves des Romains. Donc, le fait qu'il dit, comment dis-tu, vous deviendrez libres, jamais nous fûmes esclaves de personne. Déjà là, il y avait du déni dans leur phrase. Ils avaient une déni parce qu'ils avaient de la difficulté à voir la vérité devant eux, que Jésus était le Messie. Dans le verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Pourquoi qu'ils se livrent au péché et qu'ils sont esclaves du péché? C'est parce que sans Jésus, on est encore des esclaves du péché. On n'a pas de puissance pour vaincre le péché. Ça prend quelqu'un de plus puissant que nous. Ça prend une force, une nature, ça prend Dieu pour prendre les péchés et nous libérer. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Alors, il fait allusion encore à l'esclave qui ne pourra pas être dans la maison. Seulement le Fils qui appartient à Dieu. Il dit, si donc le Fils, il parle de Jésus, vous a libéré, vous serez réellement libre. Si donc vous avez cru en moi, pour qui j'étais, mon identité, si vous avez cru que j'étais Fils de Dieu et que j'étais venu pour vous libérer, vous serez réellement libre. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous sauver. Le problème, c'est qu'eux aussi, ils avaient une fausse image. Ils mettaient leur identité dans la postérité d'Abraham, dans le lien du sang. Comment nous aussi, des fois, on est peut-être grandi dans une église catholique, puis là, nos parents allaient à la messe, puis là, on dit, on est chrétien. On est chrétien parce que nos parents sont chrétiens. Non. On n'est pas chrétien, c'est pas nos parents qui fait en sorte qu'on est chrétien. C'est seul Jésus. Seule la relation avec lui. Seule une relation de cœur. Mais le problème, c'est les fausses images qu'on peut avoir de Dieu. Le premier point, c'est les blessures du passé qui faussent nos images de Dieu. Il y a aussi, depuis la chute d'Adam et Ève, il y a la culpabilité et la honte qui est venue aussi, puis la peur. Il y a aussi les relations brisées. Comment qu'on s'aime entre nous? Est-ce que ça définit qui est Dieu, la façon que Dieu nous aime? Est-ce que notre amour conditionnel définit l'amour que Dieu a pour nous? Parce souvent, on se fie à nos propres relations pour dire, Dieu, il est comme ça aussi avec nous. Alors, quand on fait gaffe, on a peur. Et le quatrième point, c'est les mauvais enseignements qui sont souvent encore interprétés à travers même les dirigeants qui ont interprété la parole à travers les blessures. Parce qu'on vit tous dans notre vie des blessures. On vit tous des expériences. Que ce soit à l'école, il y en a d'autres que c'est « Bon, non, j'ai eu la vie pas mal facile. Mes parents sont super, mes amis. » Il y a quand même des expériences de vie qu'on a goûtées, soit un rejet à un moment donné, soit un abandon, soit de l'inquiétude, soit de la culpabilité, soit de la condamnation. Il y a diverses choses qu'on peut vivre à travers des expériences de notre vie depuis l'enfance et ça s'enregistre dans notre subconscient. Et le subconscient, on n'arrive pas à la maîtriser comme ça. C'est un automatisme. Aussitôt qu'il y a une expérience vécue, le subconscient projette automatiquement le sentiment que tu avais dans l'enfance. Ce qui fait en sorte que notre lien avec Dieu, aussi dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les gens, sont affectés par cela. De la manière qu'on va réagir, qu'on va interagir avec les uns les autres. Et surtout si tu as vécu de l'abus sexuel dans l'enfance, si tu as vécu de la violence. Dans une famille où tu as été dysfonctionnelle, ou que c'était aussi très... Pas le droit de s'exprimer, surtout dans le temps, on n'avait pas le droit de dire un mot. Papa me dit ça, on dit rien. Donc, on refoulait. Et là, ce que ça fait des murs de protection, des forteresses. Ça crée des blocages en nous qui nous empêchent justement de vivre la vie que Dieu voudrait qu'on vive avec lui, puis avec les autres, puis avec nous-mêmes. Et souvent, puis même les images qu'on a de nous-mêmes. Comment qu'on se voit, nous, surtout dans la société où que la perfection du corps, on n'a pas le droit de vieillir, il faut toujours mettre plein de crème pour rajeunir. C'est vrai! Qui Ah, même témoin, là! Je suis pas rendue là, mais je commence à avoir des petits rides, puis c'est vrai que ça marche pas. On va tous rattraper. Mais c'est justement, c'est là le problème, c'est que notre image corporelle est définie par ce que la société dit, et non par ce que Dieu dit de nous. Pourtant, Dieu a dit que nous sommes une merveilleuse créature. Mais nous préférons mieux croire là, il faut que je perde un autre 20 kilos. Honnêtement, c'est bien d'être en bonne santé. Je nie pas ça. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Mais je perds le culte de l'image. De se sentir qu'on veut même pas participer à certaines choses parce qu'on est trop... on se sent pas assez belle. J'ai mes bras, je vais les cacher. C'est peut-être... je voudrais peut-être mettre de quoi de plus lousse. Mais bref, c'est souvent comme ça. Juste une anecdote vite aussi. Parce que quand tu as parlé de l'image, avant que j'oublie, voici un magazine que Nitinérant a distribué. Je ne sais pas si vous voyez de loin, là. Obsédé par son corps. C'est une revue, là, par des personnes non, qui ne connaissent même pas Dieu. La preuve que c'est flagrant aujourd'hui, parce qu'une étude a révélé que 90 % des femmes ne s'acceptent pas. On va attendre jusqu'à où pour être bien? Un jour, on n'aura plus ce corps-là, alors il vaut mieux l'accepter. C'est vrai, non? Le problème aussi avec les blessures et avec les difficultés qui arrivent à fur et à mesure, c'est que lorsque nous accumulons et refoulons notre passé, nos échecs, nos péchés, nos blessures, nos douleurs, nos pertes d'identité, par exemple, et nos sentiments, c'est tout comme de balayer et d'accumuler la poussière en dessous du tapis et de continuer d'espérer que les saletés resteront toujours cachées sans qu'elles ne finissent par déborder ou réapparaître. Mais c'est vrai, est-ce que vous pouvez vous identifier? On dit souvent, non, je vais bien, non. Mais au fur et à mesure que les années, la poussière des conflits non résolus, des blessures non traitées, ça s'accumule. Et on finit par mener devenir marcher le dos courbé. On perd l'assurance qu'on est censé d'avoir. Puis on devient accablé. Puis on devient insécure, incertain. Tous ces sentiments-là viennent souvent de conflits et des blessures, de perceptions aussi. La manière qu'on perçoit les événements entraîne une émotion et une réaction. D'où l'importance aussi du prochain diapo, de la pensée positive d'aujourd'hui. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que selon une étude, le subconscient, si tu fais une phrase positive, mais complètement un mensonge, il rejette. Ça doit être une pensée qui va avec la réalité pour faire le renouvellement de l'intelligence. Et c'est sûr que la parole, c'est la vérité, vous affranchira. C'est encore mieux d'utiliser la parole pour changer notre interprétation des événements. Pourquoi? Parce que c'est surnaturel, c'est pas juste un livre. Dieu agit à travers ça. Croyez-vous que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre, pour nous éclairer, pour nous guider? Souvent, on parle de Jésus, on parle de Dieu, mais on ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est lui qui s'occupe de nous convaincre, nous illuminer, nous guider, nous enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Donc, il joue quand même un rôle très important dans notre vie. Très, très, très important qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Je vais lire là, il dit « La pensée positive d'aujourd'hui a tendance à mettre en déni la réalité de ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Elle tente d'imiter une autruche qui enfonce sa tête dans le sable pour éviter d'être confrontée à la réalité en disant « tout va bien, mais non, tout va bien ». Combien de fois on dit « tout va bien », mais la réalité, en dedans, on a un cœur qui saigne. On arrive à l'église, on met un masque. « Ah oui, ça va bien. Ah oui, j'ai une belle semaine. » Derrière, dans le fond, oh, tu viens de te disputer avec ton mari. Peut-on être vrai? On est tous des êtres humains. Et dire les vraies choses, dire, « Ouais, ce matin, là, ça n'a pas super bien été, là, mais je veux pas, si on n'a pas le goût d'en parler, on peut dire, « Ben, je ne veux pas en parler. » Puis si elle dit, « Ben, est-ce que tu veux en parler? » »« Oui, ça me ferait peut-être du bien de partager. » Essayez d'ouvrir, parce que l'Église devrait être l'endroit où on peut prendre soin des uns des autres et s'ouvrir, avec des gens de confiance, bien sûr, qu'on a confiance. Pas n'importe qui. On ne va pas demander des conseils de mariage à des personnes qui n'ont pas réussi le mariage, mais plutôt à quelqu'un que sa vie de couple a bien été, puis que vraiment c'est son domaine. Donc, c'est important aussi de faire attention de qui on prend nos conseils aussi. C'est ça, c'est la suite de ça, c'est la dernière. C'est de vivre dans un conte de fées en croyant que juste le temps et l'oubli feront disparaître les saletés de nos vies comme par magie. La vie n'est pas aussi simple que cela. Il ne suffit pas juste de remuer une baguette magique avec laquelle nous disons « abracadabra » pour être libérés des chaînes du péché, de la mort, ainsi que des blessures du passé et du quotidien. Moi, j'aimerais ça. Vous aimeriez pas ça, vous, avoir une baguette et dire « adios au problème ». Moi, oui. Mais, cependant, Jésus est venu nous libérer. Dieu veut prendre soin de nous maintenant et jusqu'à temps qu'on quitte ce monde. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, c'est moi, jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Ésaïe 46, 4. Est-ce qu'on le croit? Souvent, on entend la parole, on entend ses promesses, mais ça reste là, mais ça ne descend pas ici, au niveau du cœur. On entend des belles paroles, mais quand on arrive, la réalité, elle reste là. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage ici. Ce blocage, c'est souvent, comme j'ai dit, le cœur qui a été brisé, qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir Dieu, un Dieu d'amour, qu'on n'arrive pas à recevoir sa grâce. Mais Jésus, Yeshua en hébreu, qui dit « Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Wow! Et ça continue. Hein? Mais je veux surtout mettre l'emphase. Dieu veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous le croyez? Moi, j'étais si brisée que... J'étais une vraie bagaille par l'enfance. J'avais vécu beaucoup d'expériences qui ont été très difficiles, que je ne savais pas me définir en vieillissant, et j'ai engendré des relations qui n'étaient pas saines au départ. J'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais cru en Jésus, mais je n'avais pas soumis ma vie. En 2000, j'avais 14 ans dans un camp quand j'ai invité Jésus dans ma vie, mais je ne comprenais pas tout le sens et la portée encore dans une tête de jeune adolescente. Puis surtout, ça contredisait ce que je vivais parfois à la maison. Mais mes parents ne voulaient pas mal faire, ils sont des parents formidables. Le problème, c'est qu'eux aussi avaient leur bagage. On est tous brisés. Ça, c'est l'une des conséquences depuis Adam et Ève. Bon, mais par contre, Jésus est le grand chirurgien de notre âme. On peut être courbé émotionnellement par des traumatismes, mais Jésus veut prendre notre douleur. Est-ce que vous mettrez un plaster quand il y a une hémorragie interne? Ça ne donne rien, hein? Mais c'est pour ça qu'il faut donner notre douleur à Dieu et commencer à l'inviter dans notre cœur. Pour laisser Jésus l'accès à notre cœur, pour qu'il puisse prendre notre douleur et nous guérir. Mais si on a des blocages et qu'on ne l'invite pas dans cet endroit-là, il y a encore ce mur de protection. Et un jour, j'étais là et j'avais de la difficulté, puis je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, je veux que ton mur de protection soit moi. Et ça me... Je dis, OK, Seigneur, j'ai compris. Alors, j'ai fait un processus de cœur à cœur avec mon époux. Donc, avec l'autorisation, bien sûr, du ministère du cœur à cœur avec Daniel Savignac. Ceci est un des PowerPoint. Il faut bien sûr avoir l'autorisation. Et je recommande très fort. Je ne fais pas de la publicité, mais je le recommande très fort. Parce que souvent, on peut même après des années de mariage, on est surpris. On a su communiquer de tête, mais on n'a pas su aller au cœur de l'autre. Donc, pour être capable d'inviter Jésus à guérir nos propres blessures, il faut se libérer par le pardon. Mais c'est quoi pardonner? Est-ce que c'est juste t'oublier. Non. Pardonner, c'est pas d'oublier. On n'oublie pas des traumatismes facilement. Elle nous suit toute notre vie. Et dès qu'un événement arrive, elle nous rappelle l'événement de notre enfance. Par contre, Jésus veut le cicatriser pour que l'émotion qui s'ensuit n'ait plus la puissance sur nous. Parce que souvent, quand on est blessé, quand on ne pardonne pas, ça engendre d'autres péchés dans notre vie. Puis on devient esclave du péché. Même si, pas esclave du péché, dans le sens qu'on n'est pas libéré, ça, la condamnation, il n'y en a plus. C'est fini. Mais dans le sens où que on a des dépendances qui se développent, des problèmes, on mange nos émotions, par exemple, ou on va avoir de l'amertume, on va parler dans le dos de tout le monde, parce que ça, c'est l'effet de toute l'accumulation de blessures qui n'a pas été traitée. Comment qu'on se libère en pardonnant? Je vais donner un exemple. Seigneur, je choisis de pardonner à mon père ou à ma mère, à une sœur ou à un frère ou à un ami qui m'a tant blessé, pour m'avoir battu, rejeté, abusé, violenté, abandonné. Fais en sorte que je ressens, je me ressens moi sale, je me sens trahie, je me sens que j'ai la honte, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie pas aimée. Et je suis prête, Seigneur, à payer la douleur émotionnelle que l'offenseur m'a causée, que les conséquences que ça a engendrées en moi. Je suis prête. Je n'ai pas un esprit de vengeance, mais je suis prête à accepter cette douleur parce que toi, Jésus, tu as été prêt à payer la douleur pour me libérer aussi. Jésus, je lutte avec la douleur que j'expérimente. Qu'est-ce que cela, ça fait à mon cœur? Qu'est-ce que cela, ça fait aussi à votre cœur? Imaginez, fermez les yeux, imaginez une situation dans l'enfance. Puis qu'est-ce que ça le fait? Comment votre cœur s'est senti déchiré pour certains? D'autres en miettes? D'autres verrouillés, enchaînés? Et quel sentiment vous avez ressenti dans cet événement? Qui a été dur pour vous? Quel était le sentiment? La peur? Imaginez-vous en tant qu'enfant. Quand on est enfant, on n'a pas la même perception. Comment vous avez interprété la situation? Quand que votre père vous a critiqué pour, ou vous a dit, au lieu que, et vous avez cherché de son approbation, ou votre mère vous a ignoré, il peut y avoir plein de raisons. Ou que vos parents se sont divorcés. Comment vous avez senti là-dedans? Alors comment, Seigneur, tu vois mon cœur qui est enchaîné et verrouillé ou brisé? Comment tu veux guérir ma douleur, Seigneur, ma peur, ma sécurité que mon père ou ma mère m'a causée ou mon ami? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, avec ma douleur? Et vous pouvez toutes répondre à cette question dans vos cœurs, parce que chaque personne, on voit une image que Jésus, ce que Jésus va faire dans votre cœur. Pour moi, c'est qu'il prend ma douleur. Seigneur, prends ma douleur et remplace cette douleur par ta paix, par ton amour. Viens me rassurer. T'étais où, Jésus, quand c'était arrivé? Qu'est-ce que tu faisais face à l'offenseur quand c'est arrivé? Et là, tu vois Jésus qui te prend et te protège. Il veut t'éloigner de cet événement. Il veut t'éloigner de ça. Il avait le cœur brisé, lui aussi, de voir ça. C'est pas son cœur, c'est pas de sa faute. Souvent, on dit, Jésus, pourquoi t'as permis-tu cela? Pourquoi tu as laissé les choses arriver? Pourquoi? Je ne comprends pas, si tu m'aimes, pourquoi? J'ai tant voulu, mais je ne peux pas empêcher les péchés du monde, les gens qui ont fait du tort envers toi. Sinon, on ne sera plus libre de décider Et alors, l'amour ne sera pas sincère entre nous. Ça. Parce que là où on n'est pas libre, il n'y a pas d'amour. Là où on ne peut pas décider, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour laisse libre de choisir. Je ne pouvais pas m'empêcher cela d'arriver. J'aurais pu. Mais ça va enfreindre l'arbitre de l'homme. Mais par contre, ça m'a attristé. C'est ce que Jésus vous dit. Ça l'attriste beaucoup de voir ces choses-là. Ce n'est pas son cœur. La souffrance qui se passe dans le monde, ce n'est pas son cœur. Un jour, justement, j'étais dans l'autobus en voyage. Et là, on était en Irlande. Il y a eu la guerre avec les protestants puis les baptistes. Entre le côté protestant et catholique, excuse-moi. Et ils ont même fait un mur pour séparer la communauté catholique et la communauté protestante. Et c'était encore risqué d'aller là. Il y avait moins de risques, la guerre est terminée. Mais au lieu de faire la paix, ils se faisaient la guerre. Et j'écoutais ça et cette pensée est venue dans ma tête comme une conviction. Là où il y a la haine et la violence, Dieu n'est pas au milieu de ça. C'est pas Dieu, ça. C'est l'homme. C'est nous. Et après ça, il y avait cette femme qui parlait de ça, et je disais, Seigneur, si seulement je pouvais lui parler, donne-moi l'opportunité de lui parler, parce qu'on s'en allait vers l'aéroport pour revenir à la maison. Je dis, Seigneur, permets-moi de lui parler. Et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il a manqué notre arrêt pour l'avion, pour nous, le terminal. Puis il a skippé notre terminal pour aller à l'autre, celle de la madame. Excusez. Alors, dans le terminal, on arrive, la première chose que je vois, c'est une église en face du terminal qui est écrit « Dieu est amour »,« God is love » en anglais. C'était comme coïncidence? Je ne suis pas sûre. Après ça, je vais la voir et je lui dis « Tu sais, Dieu, il t'aime. Il n'est pas pour ces choses-là. Il n'est pas au centre de ces guerres. Il n'est pas d'accord avec cela. » Et la femme, elle m'a pris dans ses bras. Parce que souvent, on a une mauvaise perception de Dieu. Quand il arrive des injustices, on a tendance à le pointer du doigt au lieu qu'il soit notre solution. Mais pourtant, on va souvent au médecin quand ça va mal physiquement, mais quand ça va mal intérieurement, on ne va pas voir au meilleur médecin de l'âme qui peut nous guérir. Car Jésus a dit, excuse-moi, donnez-moi une minute, je vais aller chercher une pastille. Désolée, mais c'est comme ça toute la semaine. Hein? Ah, c'est gentil. Merci. Ben justement, là, je vais peut-être aller voir un médecin. Là. Alors, il dit, dans Psaume 34, versets 17 à 19, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pas des fois. Toujours. Peut-être pour quand nous, on veut. Ça nous arrive, on veut brusquer. « Hey, Dieu, là, t'es où? Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? » Ben, je t'ai répondu, c'est non. Mais nous, on veut faire notre volonté. Hein? On est fort des fois là-dessus, on veut contrôler. Mais Dieu ne veut pas qu'on... Il veut qu'on lui laisse le contrôle. Il y a aussi une expérience, voilà, l'année passée. C'est même un peu touchant pour moi. Où qu'on avait perdu mon grand-père. Et que j'ai beaucoup aimé. Et avant cela, cet été-là, avant que mon grand-père annonce qu'il était pour mourir, excuse-moi, j'ai vécu justement d'un temps où que j'ai frôlé la mort, moi aussi. J'étais toujours à l'urgence, j'ai eu 7 épipènes en une semaine. Aux soins intensifs, avec des grosses allergies, j'arrivais même plus à rien manger, je ne savais pas pourquoi. Puis mon cœur commençait à faire défaut à l'hôpital. Et j'étais en panique. Je disais, Seigneur, je suis jeune, mes enfants, mais mon mari n'est pas chrétien encore, il ne pourra pas donner. Qu'est-ce qui va arriver de mes enfants? Qui va m'en prendre soin si je les laisse? Toute cette semaine-là, c'était un rappel de la prière que j'avais déjà faite auparavant. Seigneur, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. On arrive tous là un jour. On n'en parle pas. Des fois, on n'aime pas en parler. On essaie de le mettre en déni. On ne veut juste pas y penser. Que ça arrivera quand ça arrivera. Mais la réalité, c'est qu'on va tous arriver là un jour. C'est pourquoi que quand c'est arrivé, ce moment-là, où que j'étais justement dans une période d'incertitude, de panique, de peur, Dieu m'a conduit à travers ça dans sa parole. Tu sais, la parole, là, c'est ceux qui s'en privent, là, c'est pas juste un livre où qu'on lit, un, deux chapitres, OK, check. Moi, là, ma façon de lire, c'est, OK, aujourd'hui, je vais lire ça. Je suis pas toujours automatique, on est tous différents. Mais j'aspire, je mange de savoir ce que Dieu va me dire. Au lieu de le voir comme un devoir, bon, aujourd'hui, j'ai fait checklist sur ma liste, je veux entendre la voix de Dieu, je veux qu'il parle à mon cœur, je veux savoir ce qu'il va me dire aujourd'hui. Et justement, dans ce temps que je vivais ça, il me parlait sur la résurrection. Quelle coïncidence, hein? Non, il n'y en a pas de coïncidence encore. Puis dans le moment où que j'avais peur de mourir, pour montrer qu'il est avec moi et que je n'ai pas à avoir peur, que même là, il m'accompagnerait jusqu'à la fin, qu'il me donnerait la force, qu'il traverserait l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort avec moi. Et que même par ma mort, je peux glorifier son nom. Comment est-ce possible? Glorifier son nom même par ta mort. Oui, je ne pensais pas avoir la force de faire ça. Mais l'ambulancier, j'étais dans l'ambulance, en plein crise d'allergie, il commence à me parler, à me poser des questions sur mes études. Ben, je dis, j'étudie en théologie. Ah ouais, ma femme aussi. Là, il me posait plein de questions sur la foi. Et j'ai pu témoigner de Jésus avec lui, en pleine crise. Ça sent pas si j'étais pour mourir ou pas. Ça, c'est Dieu. Pas moi. Parce que ma force, sincèrement, ça aurait été de me morfondre. Hein? Moi. Fait que c'est lui qui fait cela. Et quand je suis arrivée après ça, dans une autre crise au cri, parce que j'en ai eu quand même quelques-uns cette semaine-là, il y avait encore une voiture qui passait devant, et il y avait le signe Jésus jusqu'à l'entrée de l'urgence. Je suis comme, ben là. J'ai dit, Jésus, là, tu y vas très fort. Pour me rassurer. Merci! Et après ça, quand je suis rentrée justement dans les soins, là, je voyais mon cœur qui commençait à faire de l'arythmie parce que trop d'épipène, c'est ça que ça l'occasionne, parce que c'est de l'adrénaline. Puis quand on en éjecte plus qu'une fois, le cœur se fatigue. Alors là, mes enfants étaient dans la même salle de trauma que moi. Donc, imagine-toi mes enfants et mon mari qui étaient en panique. Et là, je les regardais, les trois. Et je disais, Seigneur, qui va se prendre soin d'eux? Qui va s'occuper d'eux si je pars? Et c'est là qu'il dit, tu n'as pas confiance que je vais prendre soin d'eux, que tout est à mon contrôle. Tes enfants, c'est mes enfants. Ce n'est pas, c'est mes enfants parce qu'en réalité, il nous a prêté nos enfants. Mais nous, on fait tout comme si tout nous appartenait, qu'en réalité, rien ne nous appartient ici sur terre. C'est pour ça que, quand après ça, j'ai pu, pas longtemps après ça, vivre cette consolation, j'ai reçu mon premier livre pour mon cours de théologie qui était sur la gloire du Christ. Et croyez pas, il parlait de la gloire de la mort. Comment se préparer bien à la mort? Après que j'ai juste traversé cela de Owen, John Owen. Et après ça, c'est là que j'ai appris que mon grand-père n'allait pas bien. Qui était pour mourir, puis lui aussi était en panique ce jour-là. Et j'avais déjà reçu un verset sur la résurrection dans un Thessalonicien. J'ai la prononciation. Et après ça, quand j'ai su ça, j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille le voir. Là, mon mari a dit, OK, mais lui, d'habitude, en plus, il a quitté son travail en plein jour. Oui, je t'amène tout de suite. On a été ensemble, j'ai amené le livre de John Owen, puis j'ai pu lire les premières pages. Et depuis là, après ça, il a retrouvé la paix. Jusqu'à la fin. Il a pu retrouver une paix de Dieu que seul Dieu peut donner. Et pas longtemps après les funérailles, avant les funérailles, je dis, mais je pars en voyage. Puis ce voyage, à chaque fois que je pars en voyage, c'est pour témoigner parce que c'est toute l'Amérique, les États-Unis, ceux qui ont gagné le voyage, et le Canada. Et à chaque année, j'y vais avec mon mari. Puis c'est du monde aussi que j'ai témoigné de Dieu aussi, de Jésus. Puis je me sentais qu'il fallait que j'aille. Mais en même temps, mon grand-père restait quelques heures. Enfin, j'étais déchirée entre les deux. J'y vais-tu ou je reste? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux que je pars, fais au moins que je lui parle une dernière fois avant de partir. Parce que là, je savais, le lendemain que je partais, c'est dans ces dernières heures, mon grand-père. Et après ça, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, mais fais que je puisse y parler, puis que je puisse au moins assister à son funérail. Moi, c'est là que j'ai parlé à ma tante Diane, au téléphone, j'appelle le matin, puis tout de suite, j'ai rien dit. Elle me dit, t'inquiète pas, tu ne manqueras pas ses funérailles. Comment casser? Là, ça m'a tout de suite soulagée. Elle dit, on va le faire au retour au mois de mars. Là, c'est comme, déjà là. Et là, au moment même où j'ai fini de parler à ma tante Diane, mon grand-père, il y a eu un moment d'éveil. Parce qu'il est amorphe. Puis j'ai pu lui dire au revoir avant de partir. Alors, j'ai pris l'avion. Et le lendemain matin, j'ai reçu un message texte quand j'étais avec tout le monde en déjeuner que mon grand-père était décédé. Mais en même temps, j'avais cette paix parce que je savais qu'il était avec Jésus. Et c'est là que je peux dire que dans Jean 11, 25, il n'est peut-être pas affiché. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Jean 11, 25, sinon ceux qui ont leur Bible, ils peuvent le tourner. Moi, j'aime beaucoup utiliser la parole, donc il y a beaucoup de versets. Alors, il dit, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Croyez-vous cela? » Moi, j'y crois. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu le témoignage et j'ai vu la différence. J'ai été quelques mois après à une autre funéraille et lui, c'était pas la même chose du tout. Il n'avait pas eu la paix. Il criait, il implorait sa femme constamment parce qu'il n'était pas en paix. Il avait peur. Et ce n'était pas beau à voir non plus. Et c'était la première fois que j'en voyais un exposé. Ça m'a fait un choc aussi, là. Mais j'ai pu voir les deux côtés. Où qu'on en est, nous autres? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer notre Sauveur? Est-ce qu'on est vêtu de lui? Où on est vêtu d'autre chose. Est-ce qu'on a donné notre vie réellement à lui? Parce qu'il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 8. Mais en attendant, je veux que vous sachiez que Jésus compatisse à nos douleurs. Il a vécu sur terre toutes les souffrances, lui aussi. C'est pour ça que je la comparais à la religion. Jésus n'est pas une religion. Puis, il disait qu'il était la vérité. Il n'a pas dit qu'il y a plusieurs vérités, qu'il connaissait la vérité. Il disait, je suis la vérité. Et le seul chemin est la vie. Donc, c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Pas d'autre. Jésus a pris l'exclusion. Et pourquoi Jésus est si spécial? C'est que dans tous les prophètes, c'est le seul qui est descendu du ciel. Alors, quelqu'un qui vient du ciel, c'est lui qui a la vérité. En tant que vérité, il est descendu du ciel pour nous annoncer les choses du royaume. Et donc, il s'est humilié, il a souffert notre vie pour qu'on puisse s'identifier à lui. Car nous n'avons pas, en Hébreux 4, on va passer. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Car nous n'avons, dans Hébreux 4, 15 à 16, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Donc, il se soucie aussi de nos besoins. Et il est sans péché. Et il nous secourit. Et il veut nous secourir et il compatisse. Waouh, tout ça, là. Compatir à nos faiblesses. Waouh. Est-ce que vous voyez bien? Sinon, on peut mettre la lumière, remettre la lumière, puis. Ouais? OK. On va aller tout de suite aux conséquences d'Adam et Ève. Dans Genèse 3, 7 à 13. Genèse 3, 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ah, connaissance du bien et du mal. Ils s'ouvrirent. Et connurent qu'ils étaient nus, donc la honte, ayant cousu des feuilles, ils s'en firent des ceintures. Fait qu'ils éprouvèrent quoi? La honte. Alors, ils s'entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils éprouvèrent la culpabilité et la peur. Vous voyez? Aussitôt que le péché est entré, qu'est-ce qu'on expérimente? La connaissance du bien et du mal? La culpabilité, la peur, la honte. Et ça nous suit encore aujourd'hui. Excuse-moi. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ah, parce que je suis nu, je me suis caché. » On a tendance à mettre en déni, de se cacher, au lieu de le confesser. Et Adam, il a ressenti la peur, la honte, la culpabilité. Et l'Éternel dit, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Ça, tu n'es pas censé te connaître, ça, parce que... il n'y avait pas la connaissance du bien et du mal, à moins que tu aies mangé de l'arbre de fruits que je t'avais dit de ne pas en manger. Est-ce que tu as mangé de l'arbre, donc je t'avais défendu de manger? Ouh, là, je sens qu'Adam commence à... Ouh, Seigneur! Mais non! C'est la faute de la femme que tu as mise sur mon chemin! C'est sa faute! Ça, on se reconnaît-tu là-dedans? Mais là, c'est sa faute, c'est lui. C'est elle qui a fait ça. Le jeu du blâme. Hein? Ça, c'est nous, hein? Puis, après ça, ensuite, le tour de Ève. Et là, l'Éternel dit, Dieu dit à Ève, à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est le serpent. Elle a blâmé la faute du serpent. Donc, personne n'a pris part de la responsabilité. Au lieu de prendre part de responsabilité, tout de suite, on met le blâme où on se cache. Puis, on a peur, on a la honte, on se sent coupable. Il y a des bonnes culpabilités, puis il y a des moins bonnes aussi. Ça, on va en parler. Ben voyons. Ah! La technologie, hein? T'es habitué. OK. Donc, là, c'est condensé, mais je trouve que c'est un passage qui est riche. Très riche. Dans Romains 8, 1 à 2, les versets 33 à 35 et les versets 37 à 39. Je ne pouvais pas toutes les mettre, ça ne rentrait pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai souligné ça. Pourquoi? Notre identité. Puis aussi, pourquoi? On a tendance à se sentir coupable. Alors, mais en Jésus, on peut se relever. OK? Il dit, il n'y a aucune condamnation. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, on parle aussi de la mort physique, mais aussi spirituelle. La mort éternelle. Le jugement qu'on était tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis tous ceux qui n'ont pas cru ont le jugement, ils sont condamnés. Donc, je veux faire une anecdote là-dessus parce qu'il y a un jour, dans des disputes de couple, bien sûr, ça arrive, on se dispute toutes, sinon ce serait de se mentir. On m'aurait dit, « Toi, chrétienne! » Ben oui, c'est ça. Alors là, moi, je me sentais très condamnée, sincèrement. Là, j'ai dit, mais oui, je sais, là, j'ai ma part de réaction, mais là, vraiment, il l'a cherché. Là. Tu sais, les griffes, ils ressortent. Alors là, quand j'ai été dans ma chambre, j'étais vraiment accablée, j'ai dit, et coupable, et j'ai ouvert une chanson sur YouTube. Puis dans la chanson, il disait qu'il n'y a aucune condamnation. C'est pour ça que j'ai pris la peine de souligner ça. Et pourtant, on vient juste de me condamner pour mes fautes, mais Jésus, il vient de m'affirmer, « T'es pas condamné. Je t'ai pas condamné. Je t'aime. T'es mon enfant. » Mais parce que j'étais blessée, j'avais toujours l'impression que Dieu, il pourrait m'abandonner. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui? Et ça, justement, parce que je me sentais toujours abandonnée, j'étais en voyage avec mon mari et les enfants à Walt Disney. On était dans la chambre, puis sans raison, j'avais une fausse culpabilité que je traînais sur moi. Il n'y avait pas rien, j'avais pas commis rien, là, je me sentais juste, « Ah, peut-être que Dieu ne m'aime pas. » Comme ça, j'avais de la misère, ça. Et c'est là que quand je suis sortie de la chambre, au même moment que je suis sortie de la chambre, un avion dans le ciel qui dit « Jésus t'aime et te pardonne. » Et là, j'ai dit comme, les chances que ça arrive, Et là, j'étais soulagée comme une paix qui est venue. J'ai dit, oh, c'est ça, toi, c'est toi, Seigneur. Tu m'aimes vraiment. Mais oui, c'est pire, c'est que j'avais mon mari, je pense qu'il était quelque part dans les photos. On l'a vraiment pris en photo en plus. C'est arrivé deux fois en plus dans la même semaine. En tout cas. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ. Rien. Rien. Il n'a pas dit, ah, il y a des exceptions à la règle. Rien. Quand on est en lui, on est en lui. Il faut se revêtir de notre identité. On est libéré de la loi du péché. Il ne faut pas oublier, mesdames, on est libéré de la loi du péché. Je veux qu'on se le répète tous ensemble. Je suis libéré de la loi du péché. Il n'y a aucune condamnation. Je veux qu'on le dise. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Good. Mais ça, je veux qu'on se le répète régulièrement parce qu'on l'oublie souvent. Parce que on va skipper quelques versets parce que avec le temps, finalement, j'écris trop. Un petit défaut. On va aller à l'autre. Dans quel but? Ben, on voit ici encore que Jésus a souffert puis qu'il a été brisé pour nos péchés. Et ça, afin qu'on soit guéri. Mais guéri de quoi? Y a-t-il juste dit guéri de physiquement? Non, il parle, ici, on parle des péchés. On parle de l'état spirituel dans ce contexte. C'est important parce que des fois, on prend des passages puis on l'applique dans des mauvais contextes. Mais ici, on parle littéralement du combat spirituel qui nous a pris nos péchés sur lui et que la douleur qu'il a payée. On va le lire un petit bout, je pense, au lieu que je le dise n'importe comment. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, je trouvais ça que c'est important. Dans quel but? Parce que maintenant, on est réconciliés. On est une nouvelle création. Les choses anciennes ne sont plus. Quand on vient à Jésus, sa justice devient le nôtre. Je vais m'expliquer. Vos enfants, est-ce qu'ils portent, dès la naissance, ils portent votre nom de famille? Il vit dans votre maison, de la naissance, j'espère, en tout cas. Pour certains, il y a des cas spéciaux, c'est sûr qu'on ne va pas tout généraliser. Mais normalement, ils partagent tous les biens, ils partagent l'héritage que vous avez avec vous. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour le mériter. Mais ça, c'est au niveau du charnel. Mais nous, c'est la même chose avec Dieu. Au moment même qu'on vient à lui, qu'on donne notre vie à lui, on devient son enfant, on porte son nom. Et tout ce qui lui appartient devient le nôtre. Nous sommes des héritières de Dieu, des sacerdoces royales. C'est pas n'importe quoi. Un jour au restaurant aussi, on me traitait injustement, on me disait des choses que c'était pas vrai. Puis, c'est comme si je me sentais ma valeur diminuer. Alors, j'allais dans la salle de bain, puis Même dans la salle de bain, Dieu parle. Oui, je sais, c'est un peu étrange, mais c'est vrai. Et là, dans la salle de bain, j'entends cette voix qui dit, « Viens à moi, pierre précieuse rejetée des hommes. » Puis pas longtemps après, il y a cette voix qui dit, « Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Relève la tête. » C'est là que j'ai relevé ma tête. J'ai pu être consolée dans mon identité et j'ai pu aller voir, après ça, retourner avec les gens, puis calme, sans utiliser de vengeance, sans... C'est Dieu qui apporte la consolation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous vous déchargez souvent sur Dieu? Vos douleurs, tout. Vous lui donnez tout. Parce que Jésus, il veut que vous lui donnez tout. Il ne veut pas que vous gardiez rien. Et même les choses que vous ne voyez pas, tu sais, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je me sens froide. Je ne sais pas si c'est mes hormones ce matin, mais... Oh, aujourd'hui, là, je me sens irritable. Ça vous arrive? Je ne sais pas si on expérimente ça aussi à la ménopause, mais... On l'expérimente des fois aussi avant les syndromes, mais... Ou des fois, il n'y a pas de raison. Hein? Des fois, on se réveille le matin, puis... Ah, Seigneur, j'aimerais ça rester couché. En sachant toutes les responsabilités qu'on a à faire. Mais vous savez quoi? Même ça, Dieu se soucie. Et un matin, il y a une fois, j'ai dit, mais Seigneur, je suis en colère, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je ne suis pas en paix? Je me sens, ah, j'ai goût d'étriper tout le monde aujourd'hui. Et c'est là qu'il m'a montré que c'est parce que j'essayais justement de ne pas être en colère que j'étais en colère. Des fois, quand on essaye de ne pas pécher, on pêche plus. Parce que là, on marche avec nos forces. C'est comme si je marchais avec un gros poids sous le dos. Oh, c'est pesant, c'est dur de marcher droite dans ce temps-là, hein? Ben, c'est ça le péché. Quand on ne confesse pas nos péchés à Jésus, puis qu'on les porte, ben, c'est lourd, comme on peut voir dans l'image. Mais Jésus veut qu'on lui donne. Il veut qu'on lui donne, même des angles morts qu'on ne voit pas du pourquoi, lui, il va nous le montrer par sa lumière. N'oublie pas qu'il transperce les ténèbres par sa lumière. Et moi, personnellement, je ne pourrais pas vivre un jour sans lui apporter maintenant ce que j'ai dans mon cœur parce que c'est une vraie libération. Libérer la culpabilité aussi. Après avoir confessé nos péchés, si on se sent coupable encore, mais regarde, cette semaine, tu te comportes comme ça. Ah, regarde, ici, on dirait que l'accusateur, l'ennemi, nous accuse constamment. Regarde, t'es pas bonne. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on pêche encore plus. Parce que là, on se croit pas bonne, puis on est les pensées de notre âme. On va réagir en façon de ce qu'on pense. Alors, si on pense qu'on n'est pas bon, qu'on a encore gaffé, ben on va encore gaffer, puis on sera pas bon. Parce qu'on le pense. C'est pour ça qu'on parle de le renouvellement de l'intelligence. C'est, la parole en parle dans Romains 12, verset 2. Je pense qu'on va la lire parce que c'est quand même un point très important. Et on va closer bientôt. Je vois l'heure avance. OK. Yes, heureusement que ça. Non, je pense pas que c'est celle-là. Je vais vous le trouver. Ah, je l'ai mis dans le GPS, je ne pense pas que ça va... Quelqu'un qui connaît le passage? Personne? Donc, j'étais... Ah oui, ben, j'étais dans la bonne place alors. Bon, c'est verset 2 en fait. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment qu'on se renouvelle? Je vais lire deux chapitres. OK. Bon, close. Non? Comment qu'on fait? Oui, il y en a. Oui, ça aussi. Hein? Oui? Oui. Écoutez la voix de Dieu aussi. Prendre un verset. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont dans la terre. Oui, c'est vrai. Est-ce que moi, je m'attache aux choses d'en haut? Ah oui, il y a peut-être là. Peut-être trop de télé de ce temps-ci, oui. Combien de temps je me consacre à Dieu? Est-ce que c'est ça, un renouvellement d'intelligence? On remplace, on s'analyse, on sonde notre cœur. Puis aussi, on remplace des paroles. « Oh Seigneur, je me sens que tu ne m'aimes pas aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la grâce. » Ah! Il n'y a plus de condamnation. Ah! OK, ça c'est la vérité. Mais c'est la vérité ici, mais pourquoi ça ne descend pas? Seigneur, je veux le croire, là, mais je veux le croire, mais pourquoi je n'arrive pas à le croire? Parce qu'on croit souvent de là, mais quand c'est temps de vivre, soyons franches, on a de la difficulté. Ça, c'est à cause justement encore des blessures. Mais on va parler de ça à la pause au niveau de l'enseignement qu'on a reçu. Ça aussi, ça joue beaucoup. Donc, on va terminer en prière. Puis après ça, on a un invité spécial qui va venir chanter un chant, puis on va continuer après la pause. Fermez les yeux. Père céleste, merci Seigneur pour ton amour. Merci Père céleste pour ta grâce. Merci parce que en toi, Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes libérés, Seigneur. Merci d'être venu nous sauver. Éternel, sonde nos cœurs, regarde nos cœurs. Viens, Seigneur, guérir nos blessures et ce qui nous empêche de recevoir ton amour, Seigneur. Et viens nous révéler nos murs de protection et nos forteresses qui nous amènent aussi au péché. Tu es la lumière, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Aide-nous à croire ce que tu nous dis quand tu nous dis que tu nous aimes. Qu'on t'appartient, qu'on a pu avoir peur. Aide-nous, Seigneur, à croire en toi. Au nom de Jésus. Amen.